Nous allons encore demander au Seigneur de bénir la parole que nous allons entendre ce soir, afin que cette parole soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes de prêcher ta parole. Ce n'est pas la nôtre, Seigneur, mais c'est ta parole. C'est pourquoi nous voulons l'annoncer avec foi, avec amour, avec assurance aussi, sachant que ta parole a la puissance de résoudre tous nos problèmes, quels qu'ils soient. Merci parce que c'est une parole de vie qui vient nous transformer, qui vient nous consoler, qui vient nous relever, qui vient nous éclairer, qui vient nous donner ce dont nous avons profondément besoin. Seigneur, nous nous attendons à toi ce soir encore. Illumine notre esprit afin que nous comprenions ta parole et que cette parole descende dans des cœurs bien préparés et que cette parole porte du fruit dans nos vies. Merci Seigneur, nous nous attendons à toi et nos cœurs t'aiment et t'adorent pour tout ce que tu vas faire. Amen.
Amen.
Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Une fois de plus, nous allons ouvrir la parole du Seigneur et voir ce qu'elle veut nous dire encore ce soir. Le thème de la mission est le pardon qui guérit. Le pardon qui nous guérit de notre culpabilité, le pardon qui nous guérit du complexe d'infériorité, le pardon qui guérit aussi tous les ressentiments dans le fond de nos cœurs. Nous allons voir que le pardon de Dieu ce soir veut guérir autre chose. Le pardon du Seigneur veut guérir nos familles. Le pardon du Seigneur veut guérir nos familles. C'est cela que Dieu veut faire. Et c'est un programme aussi extrêmement important, car la famille aujourd'hui a besoin de guérison, n'est-ce pas vrai? La famille a besoin du pardon qui guérit. Pas seulement les familles dans ce monde, mais aussi les familles chrétiennes. Combien de familles sont dans une grande souffrance, dans une grande détresse? Je ne vous annonce pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on voit donc ensemble le chemin du pardon et de la guérison dans la famille. Peut-être que ta famille, peut-être que ton foyer est au bord de la catastrophe. Tu te demandes comment ça va finir tout cela. Humainement, tu ne vois pas de solution. Mais ce soir, nous allons voir la solution du Seigneur. Il y en a une, c'est la bonne. Encore faut-il l'accepter, n'est-ce pas? Mais il y a une solution. Le pardon du Seigneur vient guérir la famille tout entière. Oh, alléluia! C'est pourquoi nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens quelques versets qui vont nous aider à aborder ce sujet ce soir, afin que le Seigneur pose sa bonne main sur beaucoup de nos familles et nous guérisse de fond en comble. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Ces paroles s'adressent à l'Église en général, mais l'Église n'est-elle pas une famille? N'est-elle pas la famille du Seigneur? Autrement dit, cette parole s'adresse à la famille, en premier lieu, et ensuite à la famille du Seigneur. Éphésiens 4, verset 25. Pensez à ces paroles comme si elles s'adressaient à l'époux et à l'épouse, aux parents et aux enfants. Lisons ces passages comme cela ce soir. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, à son mari, à sa femme, à ses enfants. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, de la famille. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà le remède au problème de la famille. Au problème de la famille spirituelle qui est l'Église. D'une manière générale, les problèmes d'une Église sont les problèmes de la famille. Quand les problèmes d'une famille sont réglés, très souvent les problèmes dans l'Église aussi sont réglés. C'est pourquoi il nous faut toujours aller à la racine du mal. Et l'Évangile, c'est cela. C'est Dieu qui va à la racine du mal, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi nous allons voir ce soir ces guérisons tant importantes que Dieu veut apporter dans nos familles. Car laissez-moi vous dire une chose, que lorsque les familles sont guéries, l'Église sera guérie. Et quand l'Église est guérie, le monde est guéri aussi, n'est-ce pas vrai? Voyons donc comment cette guérison va s'opérer dans la famille. Comment est-ce que Dieu va s'y prendre? Nous allons voir quatre étapes que nous devons absolument franchir pour arriver à cette guérison, à cette bénédiction dans le foyer. La première étape que nous devons franchir est celle-ci, c'est que le pardon doit premièrement se manifester entre les époux. C'est par là que ça doit commencer. Les époux doivent apprendre à se pardonner. Aujourd'hui, il y a tant de divorces, tant de séparations. Si seulement on avait appris à pardonner, combien de souffrances seraient évitées, n'est-ce pas? Combien de douleurs seraient ôtées de ce monde si tout simplement les époux avaient appris à pardonner. Donc la guérison de la famille vient premièrement par le pardon que les époux doivent se donner. Maintenant, si ça commence par les époux, qui doit pardonner le premier? Le problème est là. Parce que lorsque nous arrivons à ce stade-là, les époux pensent toujours avoir raison. L'un comme l'autre a toujours raison. Et on s'attend pour voir qui doit pardonner le premier. C'est là un problème dans beaucoup de vies et de foyers. Qui doit pardonner le premier? La parole de Dieu nous donne une réponse bien clair dans ce domaine-là. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Beaucoup d'hommes, malheureusement, ont mal interprété ce passage ou ce mot de chef. Ils ont pensé que lorsque la Bible appelle l'homme un chef, ils ont pensé que l'homme est un commandant, un capitaine dans la maison ou un patron. Et que c'est lui qui commande et que sa petite femme n'a absolument rien à dire, rien à faire, c'est lui qui commande. Et ces hommes, en général, ne connaissent qu'un passage où ils connaissent celui-là, et puis ils en connaissent aussi un autre. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Ces deux passages, ils les connaissent bien. L'homme est le chef de la femme, et la femme doit être soumise à son mari. Ah, ils les connaissent bien, ces passages, les hommes. Mais malgré la connaissance de ces deux passages, ils n'arrivent pas à résoudre le problème dans le foyer. Ils n'arrivent encore pas à s'entendre dans le foyer. Mais la Bible, lorsque elle parle de l'homme qui est comme un chef, ce n'est pas du tout dans le sens que nous l'entendons nous-mêmes. Le mot « chef » ici veut dire « l'homme est le responsable de la femme ». Et il y a encore un autre sens que nous pouvons donner. L'homme, s'il est le chef, il doit être l'exemple de sa femme. Voilà un chef, c'est quelqu'un qui est responsable et c'est quelqu'un qui donne l'exemple. N'est-ce pas vrai? Et malheureusement, beaucoup d'hommes sont loin de donner cet exemple-là. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Si l'homme est le premier responsable dans le foyer, s'il est le premier responsable pour le bien-être de sa femme, pour le bien-être de ses enfants, alors c'est lui qui doit toujours intervenir le premier. Ça commence par là. C'est une parole qui est difficile à entendre pour les hommes ce soir. Mais je crois qu'ils ont besoin d'entendre cette parole. La guérison commence dans la famille par le mari qui doit apprendre à pardonner le premier. Pourquoi? Parce qu'il est le premier responsable aux yeux de Dieu. Il est un responsable. Il est le premier responsable. Et lorsque quelque chose ne va pas, Dieu s'adresse toujours à l'homme. Quand Ève a péché, vous le savez comme moi, est-ce que le Seigneur, l'Éternel est allé tout de suite vers Ève? Pas du tout. L'Éternel est allé premièrement vers Adam. Et pourtant, apparemment, ce n'était pas tellement sa faute, il semble. Mais, aux yeux de l'Éternel, c'était Adam le premier responsable. Bien que sa femme ait fait une erreur, une grave erreur. Ceci pour dire que le pardon entre dans la famille par le mari qui doit donner l'exemple. S'il veut que sa femme lui demande pardon, il doit premièrement apprendre à pardonner et à demander pardon le premier. Ça, c'est une vérité capitale. Alléluia. Mais tout à l'heure, nous allons aussi parler des dames. On ne va pas les manquer. Mais je crois qu'il y a des priorités et des pensées très importantes. Un jour, un couple avait de grandes difficultés et ils sont venus voir un pasteur. Et la dame a dit au pasteur, « Pasteur, mon mari ne m'a jamais demandé pardon. Depuis combien? Environ 16 ans que nous sommes mariés. Mon mari ne m'a jamais demandé pardon. » Le pasteur se tourne vers ce mari et lui dit, « Est-ce vrai? Vous n'avez jamais demandé pardon à votre femme? Jamais. Mais vous n'avez jamais rien fait de mal? Si. Mais comment alors? Vous avez fait le mal et vous dites que vous n'avez jamais demandé pardon, mais pourquoi? Ah, parce que mon papa n'a jamais demandé pardon à ma maman. Alors moi, je fais comme le papa. Ça ne se fait pas, un homme, de demander pardon à sa femme. Voilà la philosophie qu'il avait. Dans sa famille, le papa n'a jamais demandé pardon à la maman. Alors lui, il s'est dit, ça ne se fait pas. Si je demande pardon à ma femme, je vais perdre mon autorité. C'est ce que beaucoup de petits maris pensent. Mais mon petit mari, tu ne perdras pas ton autorité si tu ne demandes pas pardon. Tu l'as déjà perdue. Un mari a déjà perdu son autorité lorsqu'il ne prend pas sa responsabilité pour demander pardon lorsqu'il le faut. Voilà pourquoi il a de la peine à s'entendre avec sa femme. Voilà pourquoi il n'arrive pas à se faire obéir. Parce qu'il ne donne pas l'exemple.
Et spirituellement, il a perdu l'autorité. Mais lorsqu'il apprend à pardonner ou à demander pardon le premier, Dieu met une autorité spéciale sur cet homme. Sa femme le verra et une femme respectera toujours un mari qui demande pardon et qui s'humilie lorsqu'il fait une faute. N'est-ce pas vrai? Je n'ai jamais vu une épouse qui se moque de son mari parce que le mari a demandé pardon. Ça ne se fait pas, c'est le contraire qui se passe. Mais malheureusement, bien souvent, l'homme est trop orgueilleux. Il dit, puisque c'est moi le patron, c'est elle qui doit demander pardon le premier. Mais c'est le mari qui doit le faire. Et vous savez, quand est-ce qu'il doit le faire? La Bible dit ici que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Autrement dit, ça doit se faire tous les soirs, tous les jours. Le mari devrait avoir cette attitude-là, celle que Dieu lui demande, lorsqu'il voit que quelque chose ne va pas avec sa femme. C'est peut-être de sa faute, ou peut-être de la faute de sa femme, peu importe. Mais le mari doit avoir cette attitude lorsqu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été dans la journée avec sa femme, soit par sa faute, soit par la faute de sa femme. Le mari ne doit pas supporter de passer une nuit sans d'abord s'être réconcilié et s'être arrangé avec son épouse. Il ne doit pas permettre que le soleil se couche. Il doit tout de suite dire, chérie, c'est pas possible, le soleil est en train de se coucher. Et on ne s'est pas réconcilié. Il est le chef, c'est ça le chef. Il est responsable. Mais si tous les maris faisaient cela, je vous assure qu'il y aurait des véritables bouleversements dans les foyers, n'est-ce pas vrai? Mais le mari, loin de faire cela, il s'endort. Et pendant qu'il dort, il est en train encore de ruminer ce qu'il va faire à sa femme le lendemain. Il est en train de ruminer, attends un petit peu. Ah bon, tu m'as fait ça. Demain matin, moi, je vais encore préparer un autre coup. Et encore ceci, encore cela. Et il est étonné que ça ne va pas avec son épouse. Il est étonné que ça ne va pas avec ses enfants. Il est étonné. Alors que le premier en cause, c'est lui-même. Si le mari pouvait accepter cette pensée, et c'est ce que Dieu demande à chaque mari présent au milieu de nous, ce soir, lorsque quelque chose ne va pas avec ton épouse, tu ne dois pas permettre que le soleil se couche et que tu, avant que tu ne règles le problème avec ta femme, avant d'aller au lit, il faut que tout soit réglé entre nous. Si tu as tort, demande-lui pardon. Mais savez-vous que vous pouvez aussi lui demander pardon lorsque vous avez raison? Ah, j'ai jamais entendu ça. Comment? J'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit. Savez-vous que le mari peut aussi demander pardon lorsqu'il a raison? Je comprends pas ce que vous dites. Expliquez, parce que je comprends pas du tout. Vous comprenez, comme le mari est le principal responsable, comme il aime sa femme, il va tout faire pour que, avant que le soleil se couche, le problème soit réglé. Si c'est lui qui a fait des mauvaises choses, il demande pardon. Mais si c'est sa femme qui a fait quelque chose de mal, il doit encore intervenir. Il ne doit pas dire, bon, maintenant c'est ma femme qui a tort, j'attends qu'elle me demande pardon. Et beaucoup de maris attendent encore. J'attends qu'elle vienne, et puis il faut qu'il se mette à genoux. Alors, quand est-ce que tu vas me demander pardon? Il n'y a rien qui se passe. Même lorsque c'est la faute de sa femme, le mari ne doit pas rester comme cela. Il est le responsable. Il est le chef. Il a quelque chose à faire. Même lorsque sa femme a tort, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est plein de sagesse. Il a l'esprit de Dieu, puisqu'il est le responsable aux yeux de Dieu. Il peut s'approcher de sa femme. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avec ma petite femme et ça a marché. Alors c'est pourquoi je dis au petit mari ici que vous pouvez faire ça, vous verrez que ça marchera. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien ce que j'ai fait est tout simple. Ça demande aussi un peu une dose d'humilité. Vous voyez que votre femme est dans son petit coin, elle a peur, elle a de la peine à venir vers vous, à vous demander pardon, alors c'est à vous aller. Vous allez auprès d'elle et vous lui dites, écoute chérie,
Si j'ai fait quelque chose qui t'a fait de la peine, pardonne-moi. Parce que bien souvent, on ne se rend pas compte. Peut-être qu'on fait de la peine sans s'en rendre compte, n'est-ce pas? Alors, si je t'ai fait de la peine d'une manière ou d'une autre, pardonne-moi. Et en général, qu'est-ce qui se passe?
Mais non, c'est pas toi qui dois me demander pardon, c'est moi.
Et le problème est réglé.
Vous aidez votre épouse à vous demander pardon. Mais le mari doit aimer sa femme comme Christ aimait l'Église. Il y a un esprit de sacrifice, il y a un esprit d'humilité. C'est dans le brisement que nous devons le faire. Et le mari ainsi peut gagner sa femme, peut aider sa femme à s'humilier, à demander pardon. Voilà comment la guérison commence dans une famille, par l'attitude du mari. Le mari doit demander pardon le premier. Et il ne doit pas permettre que le soleil se couche sans que les problèmes soient réglés. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et je vous assure, si on met cela en pratique, eh bien beaucoup de nos problèmes ici disparaîtraient. Le pardon entre époux. Le mari demande pardon, mais la femme aussi, maintenant, doit aider son mari dans ce domaine-là. Elle-même aussi doit aider son mari, parce que parfois le mari aussi, il n'a pas envie. Il a aussi ses combats. La Bible dit que la femme est une aide pour son mari. Et dans le mot hébreu pour aide veut dire secourir. Autrement dit, la femme est là aussi pour secourir son mari, pour l'aider, parce que lui aussi, ce n'est pas encore un ange. Ce n'est pas un ange, il a besoin de votre aide, il a besoin de votre secours. C'est pourquoi la femme peut faire beaucoup aussi dans ce domaine-là. La femme peut pardonner à son mari, demander pardon, et ainsi expérimenter une grande bénédiction. Je lisais dans un livre au sujet d'un pasteur qui avait un problème. Son problème était qu'il se mettait en colère très souvent. On parle de colère ici. Eh bien, c'était un pasteur qui se mettait en colère, mais alors d'une manière brutale. C'était pas seulement son problème, mais c'était déjà le problème du papa et du grand-papa. C'était dans la famille. Ce pasteur avait tout fait pour être délivré. Il avait prié, il avait même jeûné. Il avait même essayé de chasser l'esprit de colère. Mais rien n'avait fait. Si bien qu'il était désespéré. Et après son mariage, c'était encore pire qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une personne de plus pour le condamner. Pour l'accuser de son état. C'est pourquoi c'était pire qu'avant. Mais un jour, Dieu a parlé à sa femme. Et le Seigneur lui a dit, écoute, je vais te demander de faire deux choses maintenant pour ton mari. Tu vas premièrement lui demander pardon pour les mauvaises pensées que tu as eues, les pensées d'accusation que tu as eues dans ton cœur à l'égard de tous ces accès de colère. Et deuxièmement, voici ce que tu dois faire. Tu vas t'approcher de lui et tu vas lui dire « Je pardonne tes accès de colère ». Voilà ce que tu dois lui dire. Alors la femme est allée voir son mari et lui dit « Voilà, écoute, le Seigneur m'a dit que je vais te demander pardon. » « Mais non, c'est pas toi qui dois me demander pardon. Avec le mauvais caractère que j'ai, tu penses bien que... » Non, t'as pas de me demander pardon. Mais je te demande pardon pour mon attitude. Mais aussi, le Seigneur m'a montré que je devais te dire une chose. Qu'à partir d'aujourd'hui, je pardonne tes accès de colère. Et savez-vous ce qui s'est passé? À partir de ce jour-là, cet homme était libéré de ses accès de colère. C'était terminé. Amen. Voilà, le pardon libère. Voilà comment aussi une épouse peut aider son mari. N'est-ce pas extraordinaire? Pourquoi est-ce que cet homme ne s'en sortait pas? Parce que journellement, sa femme lui reprochait son état. Et plus la femme reproche à son mari les mauvaises choses qu'il y a en lui, plus cet homme est complexé, culpabilisé, et il s'en sortira encore moins. Il a assez de problèmes, et il ne faut pas encore revenir lui dire, voilà, il y a encore ça qui ne va pas. Mais il le sait assez. Il n'y a pas besoin de le dire encore que ça ne va pas. Il le sait, il en souffre. C'est justement pas cela qu'il faut faire. Malheureusement, beaucoup d'épouses font beaucoup de fautes dans ce domaine-là. Elles voient un défaut dans leur mari, et puis alors attention, soi-disant pour le changer. T'es bien comme ton grand-père, toi. T'es bien comme ta... Hein? Comme l'oncle Willy.
Mon Dieu, tu changeras jamais, toi.
Et la petite dame pense qu'en disant cela, elle va changer son mari. Mais c'est le contraire qui se passe. Loin de le changer, l'homme se renferme en lui-même. Il se sent déjà coupable. Ce qu'il a besoin d'entendre, ce n'est pas une parole de jugement, de condamnation, c'est une parole de pardon. Alléluia. Et lorsque l'épouse confesse cette parole de pardon, il y a la guérison et la délivrance. Chères épouses, vous pouvez faire beaucoup pour vos maris. Beaucoup. Dieu vous a donné à votre mari pour le secourir. Et comment le secourir? Avec cet esprit de pardon. Alléluia. Premièrement, le pardon entre époux. Deuxièmement maintenant, le deuxième chemin vers la guérison de la famille, c'est le pardon des parents à l'égard des enfants. Les parents doivent apprendre à pardonner à leurs enfants et surtout à demander pardon à leurs enfants. Beaucoup de parents, savez-vous, qui n'ont jamais demandé pardon à leurs enfants quand ils ont fait une faute. Et ces parents se plaignent de ce que les enfants ne demandent jamais pardon, qu'ils sont mal élevés. Je voudrais bien savoir qui est mal élevé. Si vous n'avez jamais demandé pardon à vos enfants, c'est vous qui êtes mal élevé. Voilà pourquoi l'enfant très souvent se rebelle, parce qu'il voit l'hypocrisie de ses parents. Et à cause de cette hypocrisie, il se rebelle et il n'obéit pas à ses parents. Si nous voulons que le pardon pénètre dans le cœur des enfants, il faut que les parents apprennent à pardonner et surtout à demander pardon. À demander pardon. Chers parents, je vous pose une question très importante. Avez-vous déjà demandé pardon à vos enfants? Avez-vous déjà demandé pardon? Si vous ne l'avez jamais fait, alors ne vous étonnez pas des difficultés que vous avez avec vos enfants. Ne vous étonnez pas. C'est les parents, une fois de plus, qui doivent donner l'exemple. Un enfant est conduit par l'exemple. S'il ne voit pas l'exemple dans ses parents qui demandent pardon, eh bien jamais il demandera pardon lui-même. Mais si vous savez donner l'exemple en demandant pardon, il vous demandera pardon aussi. Alléluia! C'est une vérité très importante. Comment le pardon pénètre dans la famille? Par les parents, pour les enfants. Un jour, une maman a eu des difficultés avec son fils de 17 ans. Elle était toujours en train de lui casser la tête, en lui disant « Tu dois faire ceci, tu travailles pas, tu vaux rien du tout. » Si bien qu'un jour, lorsque le jeune homme en avait partout la tête, il a quitté la maison en disant « Arrête de me casser la tête, tu es toujours en train de me dire de telles choses, je ne peux plus te supporter. » Et l'enfant a quitté la maison. Cette maman était bouleversée parce qu'apparemment elle disait ces choses pour le bien de l'enfant. Et ce soir-là, elle est allée dans une réunion et l'évangéliste prêchait justement sur les problèmes de la famille en parlant de la rébellion des enfants et tout cela. Et Dieu a révélé à cet évangéliste qu'il y avait dans l'auditoire une maman qui avait eu ce jour-là des problèmes avec son fils. Et après la réunion, cette maman est allée voir l'évangéliste en disant « Eh bien, je suis cette maman qui a eu des problèmes. » Elle a tout expliqué. Et après l'explication, l'évangéliste a dit « Écoutez-moi bien, maman, votre problème est celui-ci. Le problème du fils est le suivant. Votre enfant a besoin d'être accepté tel qu'il est. Et non d'être constamment discipliné et critiqué comme vous le faites. » Elle a mal reçu cette parole. Elle a dit, mais c'est pas possible. Mais Seigneur, mais je dis ces choses parce que j'aime mon enfant. Alors elle s'est placée dans la prière. Et finalement elle a dit, mais est-ce que cet évangéliste me dit est vraiment de toi? Et le Seigneur lui a bien dit, oui, c'est bien de moi. C'est bien de moi. Voilà pourquoi ton enfant se sent rejeté et qu'il n'a pas de sécurité parce qu'il n'est pas accepté de toi. Il ne se sent pas accepté. Tu lui dis beaucoup de choses, mais tu ne manifestes pas assez de ton amour. Voilà pourquoi il se rejette. Voilà pourquoi
Voilà pourquoi il se rebelle.
Finalement, la maman a compris. Et le fils avait déménagé de l'autre côté de la rue. Elle est allée là-bas. Et quand le fils a vu sa mère arriver, il a dit « Va-t'en, s'il te plaît, je ne veux plus te voir maintenant. Arrête, tu viens encore me casser la tête. » La maman a dit « Non, 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 s'il te plaît, je ne viens pas pour cela. Je viens te demander une chose. Je viens te demander tout simplement pardon. Je ne te demande même pas de venir à la maison, mais pardonne-moi pour tout ce qui, en moi, t'a blessé. Et toute parole qui aurait pu te blesser, pardonne-moi. Je t'accepte tel que tu es. » Et la maman est partie. Le soir même, le jeune homme revenait à la maison. Quelques jours après, il se convertissait. Il se convertissait, il donnait son cœur au Seigneur. Et plus tard, il prenait sa maman dans ses bras et lui disait « Maman, tu es la plus gentille maman du monde. » Alléluia! Mais comment le miracle s'est manifesté lorsque la maman a appris à pardonner, à pardonner, à pardonner à son fils? Il y a une puissance dans le pardon. Bien souvent, les problèmes des enfants sont les problèmes des parents. Bien souvent. Et quand le problème des parents est réglé, le problème des enfants aussi est réglé. Et les parents ont une grande puissance entre les mains. C'est la puissance du pardon. Alléluia. Je lisais aussi le témoignage d'un autre couple qui s'était donné au Seigneur, mais malheureusement, le temps qu'ils se donnent au Seigneur, leurs trois enfants avaient quitté la maison et s'étaient mariés et n'étaient pas chrétiens. Alors ce couple-là avait beaucoup de souffrance dans le cœur parce qu'ils se sont convertis tard et tous les enfants n'étaient pas chrétiens. Mais au bout de quelques temps, deux de leurs fils se sont convertis. Mais il y avait un nommé Bill qui, lui, ne voulait absolument rien savoir du Seigneur. Quand il voyait une église, il fuyait l'église. Il ne voulait absolument rien savoir. Il était rebelle. Il ne voulait pas de Dieu. Et un jour, ce couple entend un message sur le pardon. Sur le pardon. Le pasteur disait, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. » Pardonnez et vous serez pardonnés. » Tout à coup, le couple a compris quelque chose. Ils ont dit, mais on a fait pour notre fils Bill, on était toujours en train de le condamner pour sa mauvaise façon de vivre. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Jour et nuit presque, ils étaient là en train de le condamner. Mais ils entendent une parole qui dit, mais ne condamnez pas, pardonnez et vous serez pardonnés. Ils ont dit, mais on a fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Ils se sont humiliés à la fin de la réunion et ensemble ils ont prié, ils ont dit « À partir de ce soir, nous ne condamnerons plus jamais notre fils. Nous lui pardonnons. Nous lui pardonnons. Notre fils est pardonné maintenant, nous lui pardonnons. » Dans la semaine, l'épouse de ce fils est venue voir les beaux-parents et quelques jours après, lui-même est venu voir son papa. Il a dit « Papa, je ne sais pas, je ne suis pas heureux. Je cherche quelque chose, il y a un vide en moi. » Le père lui a dit, ben viens à l'église, viens, viens au moins deux, trois fois. Tu verras, peut-être que tu trouveras ce que tu désires. Le fils a dit, oui, je vais venir. Il est venu quatre fois, à quatre cultes. Et un mois après, il est venu voir son papa le soir en disant, papa, je ne peux plus tenir, il faut que je donne mon cœur au Seigneur. Et un soir, à 10 h, ils se sont mis tous les deux à genoux. Et le père et le fils étaient dans la présence de Dieu. Et le fils recevait Jésus comme son sauveur et il était sauvé. Alléluia! Quelques jours après, il était baptisé et en sortant des eaux du baptême, il était prêt à servir le Seigneur. Mais pourquoi ce jeune homme ne pouvait pas se convertir avant? Parce que les parents avaient la clé entre leurs mains. Par leur esprit de condamnation, ils empêchaient le Saint-Esprit d'agir dans le cœur du jeune homme. Parce que lorsqu'on condamne quelqu'un, n'oubliez pas, l'autre ressent quelque chose. Amen. L'autre ressent l'esprit de condamnation. Et en ressentant cet esprit de condamnation, naturellement, que le Saint-Esprit ne peut pas agir en lui. Mais lorsque les parents ont utilisé la clé du pardon, nous pardonnons à notre fils. Le fils a aussitôt senti en esprit que la condamnation était ôtée, qu'il était aimé, qu'il était pardonné. Le Saint-Esprit a pu agir en lui. Et il a pu se donner au Seigneur. Alléluia! Voilà ce que les parents devraient faire. Deuxième pas vers la guérison dans le foyer. Les parents doivent apprendre à pardonner et à demander pardon à leurs enfants. Voyons la troisième clé maintenant. C'est l'inverse. C'est les enfants qui doivent demander aussi pardon à leurs parents. Ça aussi, c'est une vérité très importante. Bien que les parents ne soient pas parfaits et fait des choses qui ne sont pas toujours bonnes, l'enfant ou le jeune homme doit apprendre à demander pardon à ses parents. Le Seigneur n'approuvera jamais un jeune homme qui constamment critique et déshonore ses parents. Un jeune homme qui déshonore ses parents voit deux conséquences graves dans sa vie. Vous savez que dans l'Épître aux Éphésiens, un peu plus loin, il est dit que si nous honorons notre père et notre mère, il est dit, honore ton père et ta mère, c'est là le premier commandement, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Autrement dit, un jeune homme qui honore ses parents, c'est-à-dire qui pardonne à ses parents, même s'ils ont mal agi, mais qui pardonne dans son cœur, celui-là aura deux bénédictions merveilleuses. Il sera heureux. Premièrement, heureux. Et c'est ce que le jeune homme cherche aujourd'hui. C'est ce que l'homme cherche aujourd'hui. Il sera heureux non seulement dans sa propre vie, mais dans son foyer, dans son travail, dans ses activités. Il sera heureux. Mais avez-vous remarqué que la jeunesse aujourd'hui n'est pas heureuse? Oui, elle connaît le plaisir, mais pas la vraie joie. C'est pas une joie qui dure. Ils sont dans un lieu, ça dure le temps où ils sont dans le lieu. Mais ils quittent ce lieu, la joie n'existe plus. C'est pourquoi c'est une tragédie. La deuxième conséquence, c'est qu'il vivra longtemps sur la terre. Et si un jeune homme déshonore ses parents, qu'est-ce qui se passe? Exactement le contraire. Il ne vivra pas longtemps. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec le suicide des centaines et des centaines de jeunes. Ce suicide, et si vous allez à la racine du mal, c'est que ces jeunes gens ou jeunes filles haïssent leurs parents. Ils haïssent leurs parents. Et avec cette haine, qu'est-ce qu'il se passe? Ils ouvrent la porte au diable dans leur vie. Un jour, je lus ce récit au sujet de David Wilkerson. Il avait une grande concentration de jeunes. Et il a voulu faire un test. Il a dit ceci. Je vais vous demander quelque chose. Tous ceux qui, au milieu de nous ici, parmi tous ces jeunes, tous ceux qui haïssent leurs parents, je vais vous demander de vous lever. Je dis bien ceux qui haïssent, pas seulement des mauvaises pensées comme ça, tout le monde en a, mais qui haïssent les parents. Levez-vous. Environ la moitié de l'auditoire s'est levée, des centaines. Il a pris peur, il a été effrayé. Il a dit, c'est vous. Vous avez certainement mal compris ce que je dis. Je ne dis pas des mauvaises pensées, des petites pensées comme ça, contre. J'ai dit de la haine, je dis bien de la haine. Maintenant, réfléchissez bien, levez-vous. Le même nombre s'est levé. Et cela a profondément touché son cœur. Il a vu que le cœur de notre jeunesse est un cœur plein de haine contre les parents. Voilà pourquoi les jeunes ne sont pas heureux. Et voilà pourquoi les jeunes se suicident. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pourquoi, jeune homme, jeune fille, si même tes parents n'ont pas tout donné ce que tu voulais, même s'ils ont eu des torts, tu as toujours tort de ne pas pardonner. Tu as toujours tort. Le mal qu'ils t'ont fait n'est rien à côté du mal que tu te fais toi-même en ne pardonnant pas. Honore ton père et ta mère. Quoi qu'ils aient fait, honore-les. Pardonne de tout ton cœur. Et tu verras que non seulement tu seras heureux toi-même, mais tu seras aussi heureux dans ta famille. Savez-vous qu'il y a des jeunes qui se marient, mais ils se comportent comme des gamins encore, avec leur femme? Pourtant, ils l'aiment. Un jour, je lisais cette histoire d'une jeune dame qui aimait son mari, mais qui n'arrivait pas à s'entendre avec lui. Et chaque fois que son mari le touchait, il y avait comme une crainte et un ressentiment qui venait en elle. Pourtant, elle aimait son mari. Je dis, mais c'est pas possible, j'aime mon mari, pourquoi est-ce que j'ai une telle réaction? Elle ne pouvait pas s'en sortir, elle était vraiment malheureuse. Et ça n'allait pas du tout dans le foyer. Un jour, elle est allée voir donc un pasteur pour lui dire, voilà mon problème, j'aime mon mari, mais chaque fois qu'il s'approche de moi, j'ai peur de lui, j'ai de la crainte et du ressentiment contre lui. Avec le mari et le pasteur, ils ont parlé un petit peu. Et finalement, voici ce qui a été mis à la lumière. c'est que cette jeune dame, lorsqu'elle était toute petite encore, elle a été brutalisée par son papa, brutalisée. Cet homme, lorsqu'il rentrait du travail et trouvait sa petite fille dans la maison, il la prenait et la battait. Si bien que l'enfant, lorsqu'il savait que le papa arrivait, elle se cachait sous les lits. Mais le papa venait, regardait là où elle était, il la sortait et la battait. Alors inutile de dire qu'avec un tel traitement, la haine est entrée dans son cœur et une telle répulsion contre tous les hommes et contre son âme, sans s'en rendre compte. Si bien qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Et alors là, bien sûr, le pasteur l'a aidée à dire, mais il faut que tu pardonnes à ton papa. Il faut que tu pardonnes à ton papa, c'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Finalement, elle a abdiqué. Elle a dit, oh Seigneur, je pardonne. Je pardonne à mon papa maintenant. Et voilà ce qui s'est passé. Au moment où elle a pardonné son papa, la crainte et le ressentiment qu'elle avait à l'égard de son mari, tout cela a disparu instantanément. Voyez-vous, son attitude avec son mari dépendait de son attitude à l'égard de son papa et ou de sa maman, de son papa dans ce cas-là. C'est pourquoi beaucoup de jeunes sont là, ils ne savent pas comment s'en sortir avec leur petite femme ou avec leur petit mari. Ils s'aiment bien, mais c'est des matchs de boxe constamment. Pourquoi ? Parce qu'il y a une blessure qui est là. Il y a la haine qui est là dans le cœur. On n'a pas pardonné profondément, sincèrement. Voilà ce que Dieu demande aux jeunes de pardonner. Honore ton père et ta mère. Parle avec beaucoup de respect de ton papa, même si tu n'es pas d'accord avec lui, même s'il t'a fait beaucoup de mal. Dieu s'occupera de lui, mais parle avec honneur et respect de tes parents. Combien de jeunes et même des personnes âgées parlent de leur père ou de leur mère, le vieux ou la vieille? De telles expressions sont désastreuses. Ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas heureux. Ne vous étonnez pas si vous avez des envies de vous suicider. Parce que vous ouvrez la porte au diable. Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Ils ne sont pas parfaits non plus. Ce que Dieu nous demande, c'est de les honorer. Et si tu honores tes parents, Dieu t'honorera aussi. Alléluia. Ceci est très important. Je termine. Quatrième étape. Vers la guérison dans la famille, c'est d'accepter Jésus comme le Seigneur de sa vie. C'est de faire de Jésus dans le foyer le Seigneur du foyer. Amen. Parce que sans Jésus, vous ne pouvez pas pardonner. Sans Jésus, vous ne pouvez pas pardonner à vos enfants, vous ne pouvez pas pardonner à votre mari. Vous ne pouvez même pas vous pardonner vous-même sans le Seigneur. Tout le pardon est impossible. C'est pourquoi il est indispensable de faire Jésus le Seigneur de ta vie et de ton foyer. Il faut que tu dises, « Oh Seigneur, je n'en peux plus, moi, c'est une faillite dans ce domaine-là. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas Jésus. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien faire et rien faire dans le foyer. La quatrième clé, celle-ci, fais de Jésus le Sauveur, le Seigneur de ta vie et de ton foyer. Alléluia. Et passe beaucoup de temps à prier avec ton mari et avec tes enfants. Établis le culte de famille. Quelqu'un a dit un jour que les époux qui prient ensemble restent ensemble. Mais les époux qui cessent de prier ensemble ne resteront pas longtemps ensemble. Car la prière nous soude et nous unit, n'est-ce pas vrai? Et un couple ne peut pas prier longtemps sans que toute amertume sorte du cœur, n'est-ce pas vrai? Pouvez-vous vous mettre à genoux avec votre femme pendant longtemps et puis encore avoir de l'amertume dans votre cœur? Si vous êtes droit et sincère devant Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La première chose que vous allez faire, « Oh Seigneur, pardonne-moi !» Et vous allez vous tourner vers votre femme et vous allez dire, « Pardonne-moi chérie, ça va pas et j'ai eu des mauvaises pensées à ton égard, ou des mauvaises paroles, pardonne-moi. » Ce qui fait que la prière, le culte de famille est indispensable. Bien sûr, si ton mari est inconverti ou si ta femme est inconvertie, prie toi-même, prie pour lui. Mais que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Et si tu es dans un même esprit avec ton mari ou avec ta femme, prie ensemble. Prie ensemble, car cette prière purifiera toute amertume, toute rancune, tout ressentiment. La prière purifie pour unir ensuite. Alléluia! Et c'est ainsi que Dieu bénit la famille. Non seulement vous serez bénis, mais vos enfants seront bénis. Alléluia! Oh, que Dieu sauve nos familles! Il n'y a qu'un chemin, c'est le chemin du pardon. Le mari doit donner l'exemple. La femme doit suivre. Et si les parents donnent l'exemple, les enfants le feront aussi. Amen. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous courber quelques instants dans la prière maintenant. Vous avez entendu la parole du Seigneur. Recevez-la ce soir. Ce n'est pas la mienne, c'est la parole du Seigneur. Ton foyer est-il en danger? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Obéir à ce que Dieu t'a montré ce soir. Prends le chemin du pardon, même si ton conjoint, ton mari ne te demande pas pardon. Tu peux l'aider aussi. Tu es une aide, tu peux le secourir. Tu peux, toi, commencer à demander pardon, même si c'est à lui à le faire. Mais tu peux l'aider. Veux-tu le faire? Prends ce chemin ce soir. Pardonne à tes enfants. Demande pardon si tu sais que tes enfants te reprochent quelque chose. Si tu sais que tes enfants te reprochent quelque chose, ne reste pas là. Va leur dire, mais pardonne-moi. Si j'ai fait quelque chose qui t'a chiffonné, pardonne-moi. C'est comme ça que vous guérirez les cœurs. Et ils vous aimeront encore d'autant plus, vos enfants. Alléluia. Mais bien sûr, il y a au milieu de nous des personnes qui ont entendu tout cela et qui n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur, qui n'ont pas reçu eux-mêmes le pardon de Dieu dans leur vie. Naturellement, vous ne pouvez pas pardonner aux autres parce que vous avez vous-même besoin d'être pardonné de vos péchés. Vous avez vous-même besoin de recevoir Jésus comme votre sauveur. Voulez-vous le faire ce soir? Voulez-vous dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Mon foyer n'est rien. Je ne suis rien. Je suis perdu sans toi. Le premier qui a besoin d'aide dans mon foyer, c'est moi-même, Seigneur. J'ai besoin d'être pardonné. Oh Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je viens à toi ce soir. Pardonne-moi. Et je te donne ma vie. Je fais de toi le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux faire ta volonté, t'obéir et m'abdiquer devant toi. Oh mon Dieu, c'est la faillite dans ma vie parce que je n'ai pas reçu ton pardon. Je ne t'ai pas accepté dans mon cœur, car sans toi, je ne peux rien faire. Mais si quelqu'un ce soir voulait répondre à l'appel de Jésus et dire, « Oh Jésus, je suis malheureux, mon foyer est malheureux à cause de moi-même, parce que je n'ai pas le pardon de Dieu, c'est pourquoi je ne peux pas le donner, mais je veux le recevoir ce soir. Je veux que Jésus me pardonne, je veux que Jésus me purifie, je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie. » Et s'il vient en vous, alors, au travers de vous, il pourra bénir votre foyer. Quelqu'un ce soir veut-il prendre cette décision et dire, « Oh Jésus, j'ai besoin moi-même d'être pardonné avant de pardonner aux autres. J'ai besoin de ton pardon. Je viens à toi. » Quelqu'un veut-il dire, « Oui Seigneur, j'ai besoin d'être pardonné. » Et mais ce pardon doit être l'abdication totale de votre vie entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va faire un miracle. Il veut vous pardonner, vous transformer, si vous voulez lui donner votre vie. Quelqu'un veut-il prendre cette décision ce soir de recevoir le pardon de Dieu afin de pouvoir le donner? Oui, levez votre main, je vais prier pour vous. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui disent oui, ce soir, j'ai besoin moi-même d'être pardonné? Levez votre main là où vous êtes, nous allons prier pour vous. Ceux qui le désirent, n'ayez pas peur. Nous allons prier pour vous maintenant. Levez votre main et nous allons prier pour vous. Restons dans la présence de Dieu. Si quelqu'un demande et veut recevoir le pardon de Dieu, vous pouvez lever votre main là où vous êtes. Et à ceux qui veulent maintenant qu'on prie pour eux, pour recevoir le pardon de Dieu et recevoir Jésus dans leur cœur comme leur sauveur, pour que leur vie change, je vais demander à ces personnes de s'approcher ici, courageusement, devant, se mettre debout et je vais prier pour vous maintenant. Alléluia! Approchez-vous ici maintenant devant et nous allons prier pour vous. Approchez-vous courageusement. Si vous voulez recevoir le pardon de Dieu dans votre vie, c'est le moment maintenant. Le miracle va se passer. Cette rencontre n'est pas maintenant pour la guérison des malades, c'est pour le pardon des péchés. Pour ceux qui veulent mettre leur vie en règle avec Dieu, qui veut dire, oh mon Dieu, je suis perdu sans toi, j'ai besoin d'être pardonné, j'ai besoin d'être purifié, j'ai péché devant toi, mon Dieu, moi-même j'ai besoin d'être lavé, purifie mon cœur ce soir, oh Jésus, j'ai besoin de toi. Quelqu'un veut-il le faire encore? Approchez-vous ici, et maintenant nous allons prier pour vous. Alléluia. Restons dans le recueillement maintenant, et nous allons prier pour ces chères personnes. Si Dieu vous a parlé, approchez-vous maintenant. Alors que Dieu vous parle, obéissez. Un miracle va se passer. Le pardon des péchés, la vie éternelle. Alléluia.
Il nous a été bon d'être ensemble sous ton regard. Il nous a été bon, Seigneur, de goûter à ta grâce, à ton amour, de voir ses amis se donner à toi. Te demandons encore ta bénédiction sur eux, ta grâce. Merci, Seigneur, pour ces guérisons que tu as données. Merci, Seigneur, tu es grand. Merci, tu es bon. Et maintenant, nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner chacun dans notre foyer et d'être des chefs de famille, des épouses, comme tu demandes d'être. Bénis nos foyers au nom de Jésus, Seigneur. Oh, que cette bénédiction, nous puissions dès ce soir l'avoir en rentrant chez nous avec notre épouse, notre époux, nos enfants. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.